Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons ouvrir l'Écriture sainte dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23 et au verset 1er. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Amen. Nous arrêterons là. Vous savez, la situation à l'époque de Josias était difficile. En Israël, vous aviez toutes sortes de gens qui se livraient à malheur, toutes sortes d'activités mauvaises, d'idolâtrie, de débauche, d'excès, de tout genre. Et autour, dans les nations environnantes, c'était des conflits continuels. Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Hein, et la menace de l'Empire babylonien avait succédé à celle de l'Empire assyrien. De plus, les habitants du pays, à cause de leurs propres péchés et aussi à cause, je dirais, des coupables générations précédentes qui avaient persévéré dans cette désobéissance, dans cet endurcissement au péché, malgré les avertissements qui étaient venus par divers prophètes successifs, donc, eh bien, ces habitants étaient sous la colère de Dieu qui était tout près de se manifester. Et il manquait quelque part plus qu'une goutte pour faire déborder le vase. Et c'est dans ce contexte que nous voyons ce récit. Ce récit, c'est le début du réveil du temps du roi Josias, qui a transformé à ce moment-là, pour un temps au moins, la bénédiction en malédiction. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant, parce que nous vivons quelque part dans une époque étrangement semblable. Bon, on dit que l'histoire ne se répète jamais, mais il n'empêche qu'elle bégaye parfois. Ça aussi, on le dit. Hein. C'est-à-dire que, ben oui, on voit bien combien il est difficile de garder la paix sur la terre. On voit bien, là aussi, combien le péché, la désobéissance à Dieu sont des choses qui augmentent de plus en plus. Vous avez toutes sortes de repères moraux et spirituels qui n'existent plus pour beaucoup de nos concitoyens. Et assurément, l'indignation de Dieu, si on considère les caractères qu'il a d'après l'Écriture, eh bien certainement cette indignation est aussi en progression, et je dirais quelque part en proportion de ces choses. Bien des hommes, bien des femmes, personnellement, individuellement aussi, sont dans une situation comparable. Et l'Écriture nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes qui retiennent injustement la vérité captive », etc. C'est dans le début de l'Épître aux Romains. Et comment, la question c'est comment, comment est-ce que cette colère, comment est-ce que, je dirais, cette indignation divine pourrait être enlevée de manière à ce que la malédiction soit changée en bénédiction. Voilà, et ça, c'est certainement le sujet de notre texte et donc de notre message. Vous pouvez remarquer un petit mot qui revient 10 fois. Dans ces 4 assez longs versets, et ce petit mot qui est important, c'est le mot « tout ». Tout, hein, c'est un verbe qui est là, « tout hein, ». On peut classer ces 10 répétitions du mot « tout » dans 7 rubriques différentes qui montrent 7 choses très nécessaires pour le réveil et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Déjà, verset 1, une réunion totale. Ensuite, verset 2, une élévation totale. Dans le même verset, une parole de Dieu totale aussi. Une prière totale au verset 3, un engagement total dans le même verset, un nettoyage total, complet, également dans le verset 4, et un rejet total de certaines choses également. Et il est bon que nous puissions considérer tour à tour chacun de ces points nécessaires. Déjà, une réunion totale des décideurs, de tous les décideurs. Hein. Donc, verset 1er, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il est monté avec tous les hommes, etc. Hein. Tous ceux qui étaient responsables furent réunis de façon à parvenir à un accord unanime. hein, de façon à arriver à tomber d'accord ensemble. Et ça, c'est un point qui est très important. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un moment qui a été dramatique, extrêmement important, et ça a été une des grandes causes de la victoire finale. Ce fut lorsqu'on décida de nommer le maréchal Foch comme chef suprême, comme généralissime du champ de bataille de toutes les forces alliées. Alors on entendit par exemple le général Pershing, qui était le général américain Pershing, qui a remis le commandement de l'armée américaine à Foch en disant la chose suivante: infanterie, artillerie, aviation, tout ce que nous avons est à vous, disposez-en comme vous le voulez. Et quelque part, ça a été un des grands facteurs, donc majeurs, qui a contribué à la victoire qui était si difficile à obtenir par ailleurs. Il est évident que lorsqu'on veut un succès, dans un domaine ou dans un autre, il faut que les centres de décision aient été réunis et qu'ils soient bien d'accord. Hein, que dirait-on d'une entreprise dont le directeur, par exemple, veut orienter le travail dans telle direction, mais voilà, vous avez un chef de service qui, lui, a décidé de commencer autre chose de tout différent, et puis un peu plus bas dans la hiérarchie, voilà des ouvriers qui se mettent à faire autre chose que ce qui leur a été demandé. Ben certainement, ça n'irait pas loin, surtout par les temps qui courent, je pense. Hein, donc, et que dirait-on d'une assemblée dans laquelle le pasteur, par exemple, veut travailler d'une certaine façon, mais que certains s'y opposent, que certains font un travail contradictoire, pendant que d'autres encore se dispersent dans des activités qui n'ont rien à voir. Bien, je crois que certainement, cette assemblée serait grandement limitée, grandement handicapée pour faire l'œuvre du Seigneur. Et donc, nous voulons considérer là aussi le cas plus particulier de notre propre personne, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est à voir. Là aussi, il faut que toutes les parties soient d'accord, que tous les centres de décision veuillent réellement l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en nous et par nous. C'est-à-dire que votre volonté soit d'accord, même si cette volonté n'est peut-être pas très costaud en elle-même, hein, que votre caractère soit d'accord, même s'il n'est pas parfait. Que vos capacités soient d'accord, même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les capacités qu'il faudrait. Hein. Que votre intelligence soit d'accord, même si elle ne saisit pas encore tout d'un bout à l'autre. Hein. Et puis que votre cœur soit d'accord, même si toutes ces affections ne sont pas encore ce qu'elles devraient être. Et ainsi, faut-il que tout notre être, toute notre personne ait ce désir de s'approcher du Seigneur, de se confier en lui, et que toutes les parties soient bien tombées d'accord pour cela. C'est quelque part la première condition d'un réveil véritable et de la bénédiction pour obtenir cette victoire. Amen. Je avance un peu dans mon texte et je vois qu'il est question d'une élévation totale. Hein. Ils sont marqués, verset 2, « Il est monté à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » C'est intéressant. Hein. Tous sont montés à la maison de l'Éternel, tous se sont donc élevés quelque part. Et le plus grand avait de l'importance, mais le plus petit aussi, d'ailleurs, il est question des petits d'abord, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Voilà. La question, c'est de savoir qui est-ce que nous reconnaissons comme propriétaire de notre personne, comme propriétaire de notre vie. Hein ? C'est un missionnaire écossais qui avait travaillé en Afrique, et au retour, il a raconté l'anecdote suivante qu'il avait vécue. C'était donc un indigène qui avait été attaqué, déchiré par une lionne, pratiquement considéré comme mort. Donc, mais le missionnaire a pu soigner ses plaies, il a prié pour lui aussi, et quand il est allé mieux, il l'a laissé pour repartir vers sa station missionnaire. Et après 3 mois, voilà que cet homme est revenu vers le missionnaire et lui a dit: « Tu connais la loi de la forêt africaine qui dit que le sauvé appartient à celui qui l'a sauvé. Alors j'étais mort, mais maintenant je suis vivant, je t'appartiens. Voici mes femmes, voici mes enfants, voici mon bétail, fais-en ce que tu veux. » Voilà. Donc ça, c'est une chose, une expérience que cet homme avait vécue, et ça l'a beaucoup touché, ça l'a frappé par la reconnaissance que ça manifestait, et je dirais quelque part la cohérence hein, aussi que cela démontre. Est-ce que nous sommes prêts à ainsi tout donner à Christ de la même façon ? Hein, c'est une grande question parce qu'il a sauvé bien plus que notre vie physique, mais il est celui qui nous a épargné la perdition éternelle et celui qui se confie en lui, il a acquis pour lui ou pour elle la vie éternelle. Amen. Hein. Et donc, si nous voulons être vraiment bénis comme Josias, il faut aussi qu'avec son secours, nous élevions les grandes et les petites choses de notre vie dans leur totalité. Que nous ayons le désir de lui obéir en tout point, que nous ayons le désir de l'aimer en tout temps, que nous ayons le désir d'être à sa gloire dans toutes nos occupations, qu'elles soient visibles ou peu visibles, qu'elles soient importantes ou qu'elles paraissent insignifiantes. Il n'y a pas une chose, même petite à nos yeux, où le Seigneur ne puisse agir. Hein, et où il ne désire agir. Et celui, celle qui agira ainsi, bien, ne manquera pas aussi de voir la grâce et la bénédiction de Dieu sur sa vie. Amen. Si je poursuis mon chemin, je vois aussi question d'une parole totale, parole de Dieu totale. Dans la fin du verset 2, « Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. » C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit la parole de Dieu en entier. Hein, sans rien en négliger, sans rien en refuser, c'est-à-dire qu'on a à cœur d'aimer cette parole et de la méditer. Est-ce que vous aimez lire et méditer l'Écriture sainte ? Vous savez, c'est quelque chose d'immensément important pour nous. C'est ça qui fortifie notre foi, c'est ça qui fortifie notre âme. On demandait un jour à une jeune fille pourquoi elle aimait lire la Bible, pourquoi elle aimait lire toute la Bible. Et elle a répondu de la façon suivante. Elle a dit « Hier, j'ai reçu une lettre de mon fiancé. Ce jeune homme auquel je donnais mon cœur et promis ma vie. Et je vous avoue que j'ai lu cette lettre 5 fois, non pas parce que je n'avais pas compris à la première lecture, ou parce que je voulais par cela en faire plaisir à l'auteur en lisant fréquemment sa lettre. Ce n'était pas pour moi une question de devoir, c'était simplement une question de plaisir. Je l'ai lu parce que j'aime celui qui me l'a écrite. » Voilà, donc, ainsi en est-il de ma lecture de la Bible, car pour celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu est plus encore qu'une merveilleuse lettre d'amour. Voilà, une belle image, hein, une belle image. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? Est-ce que vous ressentez le besoin de nourrir votre âme de cette parole, hein, donc, ou bien est-ce que vous devez vous forcer à la lire, je ne sais pas, est-ce que vous la prenez à dose, je dirais, homéopathique, hein, juste la dose pour ne pas mourir, hein, ne pas dépasser la dose prescrite, etc., je ne sais pas, bon voilà. Hein, donc, là encore, c'est un autre article qui me revient à l'esprit lorsque j'ai eu l'occasion de lire un reportage d'un journaliste qui avait couvert donc un pays dans lequel il y avait une grande famine et il avait accompagné un secouriste dans sa tournée alors que celui-ci allait apporter des médicaments et des aliments aux plus faibles et aux plus touchés d'une certaine zone donc et le secouriste qui connaissait la langue du pays s'est tourné un moment vers le journaliste après avoir parlé avec plusieurs de ces malheureux qui étaient maigres, qui étaient affaiblis. Et puis il a dit au journaliste, « Est-ce que vous savez ce que la plupart d'entre eux me disent ? Ils se plaignent du manque d'appétit. Même quand ils reçoivent une boule de riz de notre poste de secours, ils n'ont pas d'appétit. » Ces victimes de la famine n'étaient pas ou plus affamées. Pourquoi ? Parce qu'elles mouraient de faim. Hein, je dirais donc ils avaient passé le stade du désir de nourriture, et je crois que c'est là l'image de bien des âmes, hein, là aussi, qui ont perdu l'intérêt, l'aspiration au pain de vie, à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que justement, parce qu'elles sont en train de périr spirituellement. Hein, donc il faut aussi que nous saisissions cela, que nous réalisions cela, et puis que l'amour de la parole de Dieu, avec le secours de Dieu, puisse grandir de la totalité de sa parole. Amen. Et puis j'avance encore, je vois encore une autre chose, un autre grand point, c'est une prière totale. Hein. Dans la suite du verset 3 maintenant, je lis, « Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre et tout le peuple entra dans l'alliance. » Donc une prière total. Le roi, de toute évidence, s'est adressé à Dieu et tous ceux qui étaient là également, ils ont donc prié, ils l'ont fait de tout leur cœur, toute leur âme, comme cela est bien marqué. Et nous voyons là aussi un grand point de la prière qui est agréable à Dieu. Pas forcément de belles formules, hein, de grandes phrases, mais quelque chose qui vient du fond du cœur. Souvenez-vous que Anne répandait son cœur devant le Seigneur. Hein? C'était la mère, enfin, pas encore la mère, mais ça allait devenir la mère de Samuel. Mais c'est parce qu'elle savait répandre son cœur devant Dieu que Dieu l'a écoutée et puis que la situation s'est miraculeusement débloquée pour elle. Hein? Rappelez-vous que David aussi exhortait son âme à espérer en Dieu et à le louer. Hein? Et il disait, vous savez, il y a des combats comme vous et moi, hein? C'est-à-dire qu'il avait son âme qui s'abattait en lui aussi, hein, qui se décourageait, qui se déprimait. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, « Pourquoi t'abattu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et puis il avait raison de faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et puis, vous voyez comment Dieu aussi l'a secouru. Lorsque Daniel a prié de tout son cœur et qu'il a obtenu la faveur divine, là aussi, c'était quelque chose qui venait justement de cette sorte de prière-là. Hein, prière de tout le cœur et de toute l'âme. Esdras, par exemple, ayant fait une telle prière, a obtenu le succès de son voyage périlleux, dont le succès était très loin d'être garanti, et le temps nous manque pour parler de ceux qui, suite à des prières qui ont été faites, qui ont été maintenues de tout leur cœur et de toute leur âme, ont non seulement obtenu une grâce, mais encore marché dans cette bénédiction jour après jour et moment après moment. Amen. Et puis le verset 3, ce même verset que j'ai déjà lu, que je ne relis pas donc, nous parle bien sûr aussi d'un engagement total. Un engagement total. Donc, et ça aussi, Dieu attend de notre part un engagement qui soit pratique et qui soit concret, hein, avec des décisions qui soient en accord. Si nous voulons élever nos âmes, si nous désirons donc aimer la parole de Dieu en entier, comme vient de le voir, si nous voulons prier de tout notre cœur et toute notre âme, bien ça ne suffit pas encore. Dieu attend donc que nous nous engagions et que nous le fassions totalement. Et combien il y a les choses nécessaires, Jésus le dit, hein, lorsqu'il parle de Marthe et de Marie, hein, et puis comme qu'il reproche un peu à Marthe, il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La seule chose vraiment nécessaire. Hein, » je ne dis pas que les autres n'ont pas leur utilité à certains moments, hein, mais la chose nécessaire. Ne la perdons pas de vue, gardons-la véritablement à cœur. Hein. Donc, dans l'Épître aux Philippiens, nous voyons que l'apôtre Paul, au chapitre 3, verset 8, dit combien il a compté toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Donc, il a fait cela. Et un autre aussi qui l'a suivi, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, mais qui a été un serviteur de Dieu tout à fait utile dans la moisson du Seigneur, c'est le baron von Welz. Donc, ça, nous sommes là au XVIIe siècle, et qui a renoncé à son titre, qui a renoncé à sa richesse pour devenir missionnaire en ce qui était à l'époque la Guinée hollandaise, et il y a fini sa vie au service du Seigneur. Et quand il a abandonné son titre, ses richesses, voilà ce qu'il a dit. « Qu'est-ce pour moi que le titre bien-né quand je suis né de nouveau en Jésus-Christ ? Qu'est-ce pour moi que le titre Seigneur quand je ne veux qu'être le serviteur du Seigneur Jésus-Christ ? Quelle importance pour moi d'être appelé votre grâce quand j'ai besoin de la grâce et du secours de Dieu ? Je veux me débarrasser de toutes ces vanités. » Et le reste, je veux le mettre au pied du Seigneur Jésus pour que rien ne m'empêche de le servir justement. Amen. Hein? Voilà un beau, bel exemple. Donc, le Seigneur attend de notre part un engagement total, même si évidemment, nous n'avons pas tous forcément le même appel que celui de cet homme. Et puis je dirais que nous avons aussi besoin, c'est notre sixième point, d'un nettoyage total. Un nettoyage, si je peux m'exprimer ainsi, du péché. Et les instruments du péché, c'est ce qui est indiqué dans ce verset 4. Donc, sortir du temple tous les ustensiles qui avaient été faits pour les idoles, hein, pour le service de ces idoles, les brûler donc et en faire porter la poussière au loin. Voilà, des instruments de péché qui avaient servi à ces cultes maudits et qui amenaient la malédiction. Il fallait que tout cela soit ôté pour que la bénédiction de Dieu ne soit empêchée par rien. Vous savez, le péché, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible et souvent on ne s'en rend pas compte ou on s'en rend compte trop tard. Un jour, je me souviens, dans une prairie, j'ai vu une sauterelle qui s'approchait d'une araignée. Hein. Donc l'araignée était là, par terre, et puis la sauterelle est arrivée. Et puis elle s'est... C'était impressionnant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette sauterelle? Elle s'est approchée, tout doucement, mais vraiment, il faisait chaud, et puis le soleil, tout était calme. Elle s'est approchée tout doucement de l'araignée. L'araignée ne bougeait pas. Hein. Et puis à un moment, elle a tendu son antenne, comme ça, comme si elle avait voulu serrer la main à l'araignée, hein, ou la patte. Et d'un seul coup, il y a une patte de l'araignée qui s'est détendue, hop! Et puis, il y a eu un fil qui est allé sur l'antenne. Voilà. Et puis la sauterelle aurait encore très bien pu se sauver à ce moment-là. Elle aurait très bien pu partir encore. Hein. Donc, et puis non, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Et puis, elle a tendu une patte. Et à nouveau, hop! Un fil qui est parti. Et puis, plusieurs fois comme ça, je ne sais pas pourquoi elle ne partait pas, mais elle était là. Et à chaque fois, il y avait l'araignée, ben, elle envoyait un fil comme ça. Puis au bout d'un moment, ben, la bestiole a quand même senti que ça commençait à risquer de commencer à chauffer pour son grade. Alors elle a voulu bouger. Mais là, d'un seul coup, l'araignée, ben, elle lui a sauté dessus. Et puis elle l'a emballée, ben, vous auriez vu à une vitesse. Elle l'a emballée avec un ensemble de fils pour la ligoter. Et puis finalement, ben, quand elle a eu fini de se débattre, ben, l'araignée s'est mise à table. Quoi, hein. Voilà, ça s'est passé comme ça. Hein. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Hein. Ça qui arrive à beaucoup de gens. Il y a des choses comme ça dans leur vie bien, qui sont là. Et puis... Puis on leur dit que c'est du péché, ou leur conscience leur parle, mais beaucoup de gens sont pris comme cela. Puis au début, ils ont l'impression que, bon, ben, c'est pas grave. Et puis après, ben, ils se retrouvent de plus en plus pris, surtout de plus en plus liés, et puis il y a des conséquences néfastes, parfois vraiment terribles. Donc, et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'opérer un nettoyage dans nos vies, hein, un nettoyage aussi avec son secours de tout ce qui peut nous faire tomber dans le péché, parce que c'est lui le Seigneur qui peut nous délivrer, c'est lui qui peut nous purifier parfaitement. Hein. Il a payé le prix pour ça sur la croix, et il a manifesté la puissance de la délivrance aussi sur la croix et par sa résurrection. Amen. Et puis, enfin, vous avez un rejet total de l'idolâtrie. Hein, c'est ce qui est aussi manifesté là. Ils ont rejeté toutes leurs idoles, tous leurs faux dieux, pour adorer et servir le seul Dieu véritable. Je dirais que c'est quelque part la raison finale de cette bénédiction qui a suivi pour eux. Et nous aussi, eh bien, il faut que nous détruisions toute idole, là, spécialement les idoles qui sont dans notre cœur. Hein, dans notre cœur. Voilà, trop souvent, voici l'égoïsme, voici l'orgueil, voici l'amour de l'argent, voici le mauvais caractère, voici l'incrédulité, et il faut que ces idoles soient détruites, hein, donc là aussi, pour que la grâce et l'amour de Dieu puissent se manifester. Hein, là aussi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Hein. Voici le témoignage d'un chrétien donc, qui raconte à propos de lui-même et à propos d'un de ses voisins. Et il explique, voilà, je possédais à l'époque un grand troupeau de poules chez moi. Et j'étais très fier de ces belles poules. D'habitude, je les tenais enfermées dans leur poulailler. Mais un printemps, eh bien... faisait beau, j'ai décidé de laisser courir dans mon champ, après leur avoir rogné les ailes pour qu'elles ne puissent pas s'envoler. Et un jour, en rentrant pour le souper, j'apprends qu'un de mes voisins, rempli de colère, était venu pour me dire que mes poules étaient venues dans son jardin, hein, qu'il en avait tué plusieurs, et qu'il les avait jetées par-dessus la clôture dans mon champ. Voilà. Alors, je me mis dans une grande colère, parce qu'il avait tué mes belles poules que j'aimais tant, et j'ai décidé immédiatement de me venger, et que j'obtiendrai réparation d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça c'est sur le coup. Et puis il dit, heureusement, il n'a pas pris de décision tout de suite, alors il s'est assis, et il a mangé, après avoir rendu grâce au Seigneur, hein. Il s'est dit, je vais manger le plus calmement possible, et au bout d'un moment, alors que mon repas approchait de sa fin, je me dis que devant le Seigneur, la meilleure chose à faire, c'était quand même pas de me battre avec mon voisin pour une histoire de poule, et de m'en faire un ennemi acharné. Donc, j'ai décidé d'essayer d'autres choses, hein, en étant sûr que ça irait certainement mieux, et j'ai prié dans mon cœur que le Seigneur me soutienne. Alors, après dîner, je suis allé chez mon voisin. Il était dans son jardin, et je le trouvais en train de poursuivre une de mes poules avec un bâton, en train d'essayer de la tuer. Hein. Alors, je l'accostais, et il se tourna vers moi, le visage enflammé de colère, éclata dans une grande rage. Vous vous êtes moqué de moi. Je tuerai toutes vos poules si je peux les attraper. Personne ne s'est jamais moqué de moi de cette façon-là. Mon jardin est détruit. » Alors ce chrétien a dit, « Je regrette. Je ne voulais pas vous faire de tort. Et maintenant, je vois que j'ai fait une grande erreur en lâchant mes poules. Je vous demande pardon et je veux vous payer 6 fois le dommage qui a été causé. » Alors, l'homme paraissait confondu. Il ne savait plus comment réagir. Il regardait en haut vers le ciel, puis en bas vers la terre, puis vers son voisin, puis vers la poule qu'il avait poursuivie, et puis il ne disait rien. Donc, alors dites-moi maintenant, lui a dit le chrétien, quel est le dommage? Je vous le rembourserai 6 fois. Et mes poules ne vous ennuieront plus. Je me remets entièrement à vous pour dire ce que je dois faire, parce que je ne peux pas supporter de perdre l'estime et la bonne volonté de mes voisins et de me disputer avec eux pour des poules ou quoi que ce soit d'autre. Je suis un grand insensé, a dit le voisin. Le dommage est si faible que ce n'est même pas la peine d'en parler, et il vaudrait mieux que je vous rembourse plutôt que l'inverse, et que je vous prie de m'excuser plutôt que vous. Voilà comment les choses se sont finies. Mais si ce chrétien a pu être béni et en bénédiction dans cette circonstance-là, n'est-ce pas aussi qu'il avait rejeté ses idoles, les idoles de son cœur, vous savez? L'idole de quoi? L'idole de ses biens à lui. L'idole de son orgueil qui fait qu'on veut toujours avoir raison tout de suite, en premier, qu'on peut imposer sa raison. L'idole de son égoïsme, quelque part. L'idole même de ses propres droits. Et c'est pour cela aussi qu'il est important que nous puissions venir à Jésus et que nous puissions nous confier en lui, et puis que ces idoles puissent être détruites pour que le Seigneur puisse mettre toute sa bénédiction sur notre vie. Béni soit son nom. Amen. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que tu as, toi, des chemins pour agir auxquels les hommes ne pensent pas, auxquels les hommes, surtout aujourd'hui, n'ont aucune idée, Seigneur. Mais nous te remercions parce que tu veux agir par ton esprit. Nous te remercions parce que tu veux faire ton œuvre aussi dans nos propres cœurs, pour que nous puissions être selon toi, selon ta volonté, Seigneur, et que nous puissions aussi être de ceux qui manifestent autour d'eux ta bonté, ta vérité et ton amour. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Et merci pour ces moments dans lesquels encore nous pouvons te prier et te remettre encore ces divers besoins, ces divers sujets, avec l'assurance que tu veux encore répondre favorablement. Sois glorifié, notre Dieu. Amen.